Vous écoutez
RMC.
Mercredi 5 octobre.
L'info sur RMC.
8h sur RMC et RMC Story, c'est l'heure du journal présenté par Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Les fournisseurs d'énergie priaient d'aider les petites entreprises. Convocation ce matin à Bercy. C'est trop cher, 9 millions de billets de train en vente ce matin pour les fêtes de Noël et déjà des voyageurs très déçus par les prix, vous les entendrez. Le foot, premier gros test pour Paris, le Paris Saint-Germain face au Benfica ce soir, coup d'envoi 21h, RMC en direct depuis Lisbonne.
Bercy veut mettre la pression sur les fournisseurs d'énergie ce matin.
Réunion prévue dans un tout petit quart d'heure maintenant avec Bruno Le Maire. Ils sont accusés de ne pas jouer le jeu avec les petites entreprises touchées de plein fouet par la flambée des prix. Le ministre de l'économie veut qu'ils s'engagent sur des tarifs raisonnables, Victor Joannin.
Ce coup de pression du gouvernement est salué par les chefs d'entreprise, mais attention, prévient le consultant en énergie Nicolas Leclerc, Bercy ne pourra pas obliger les fournisseurs d'énergie à revenir à des offres d'avant-crise.
Un fournisseur d'énergie, dans l'absolu, s'il gagne 5% de marge brute, c'est déjà pas mal. Donc il n'y a pas d'argent magique à aller chercher de ce côté-là.
Les fournisseurs d'énergie sont devenus des boucs émissaires faciles dans un marché de l'énergie complètement déséquilibré, souligne Julien Tédé, le directeur général d'un courtier en énergie.
La demande d'énergie, de gaz et d'électricité, est trop forte par rapport à notre production d'électricité. Donc, reprocher aux fournisseurs de gaz et d'élec de faire des mauvaises offres en ce moment, il me semble que c'est un peu comme si on a de la fièvre et qu'on gronde le thermomètre.
Mais les experts comme Xavier Pinon estiment que les fournisseurs peuvent faire l'effort de laisser plus de temps de réflexion aux entreprises.
Il y a peut-être un an, le délai pour signer un devis pouvait être de 10 jours, par exemple. Et là, vous êtes obligé de demander aux clients de s'engager dans les 24 heures. Donc, vous n'avez pas le temps de comparer.
Les fournisseurs proposent ces devis à durée de vie très limitée à cause des prix qui font yo-yo, mais ils peuvent donner l'impression aux entreprises de devoir signer le couteau sous la gorge.
À l'approche de l'hiver, les collectivités aussi sont fébriles. Focus sur les établissements scolaires. Alors oui, déjà, on baisse le chauffage à 19 degrés dans les salles de classe, mais certains veulent aller plus loin, carrément repenser les emplois du temps, nous explique Martin Bourdin pour RMC.
L'objectif de la région Hauts-de-France, c'est de pouvoir couper le chauffage plus tôt dans les salles de cours, tout le week-end. Ainsi donc, les 57 lycées de la région ouverts le samedi matin à déplacer ses cours du samedi au mercredi après-midi. Les lycées agricoles, eux, doivent réfléchir à libérer les élèves dès le vendredi midi. Dans les deux cas, ça permettrait d'économiser une demi-journée de chauffage et ça ne plaît pas du tout au président de la FCPE du Nord, Jean-Yves Guéant, très inquiet pour les élèves.
Ça va apporter une amplitude horaire, mais catastrophique, du lundi jusqu'au vendredi, de 8h-17h non-stop.
Il faudrait aussi repenser les horaires des transports scolaires, des services de cantine. Les directeurs d'établissements, eux, seraient contraints de réorganiser tous les emplois du temps.
Ça ne doit pas être jouable, la question ne doit pas se poser.
Bruno Bobkiewicz, le secrétaire général du syndicat SNPDEN, UNSA, qui représente les chefs d'établissement.
Il y a des horaires de fonctionnement qui sont définis d'ailleurs par un règlement intérieur. Dès qu'il y a un incident, on ne va pas chercher à modifier les horaires. Il y a une recherche d'économie qu'on peut comprendre, hein, mais après, il faut trouver des justes équilibres. Il faut que les enseignants et les élèves puissent travailler dans de bonnes conditions et les personnels administratifs également.
Il appelle les chefs des établissements concernés à refuser cette proposition ce matin lors de la réunion organisée avec la région Hauts-de-France et les rectorats.
Une mesure essentielle de la réforme de l'assurance chômage votée hier soir. Elle permet de moduler les indemnisations. En clair, elles seront plus strictes en temps de plein emploi, plus généreuses quand le chômage est élevé. Évidemment, cet article a été rejeté par la gauche et le Rassemblement national. L'examen du texte se poursuit aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On vient de l'apprendre, une jeune femme de 18 ans tuée par la police après un refus d'obtempérer. Ça s'est passé la nuit dernière dans la banlieue de Grenoble à l'issue d'une course-poursuite. Son compagnon qui était au volant a refusé de s'arrêter avant d'ouvrir le feu en direction des forces de l'ordre. Et puis l'évacuation ce matin au square de la Porte de la Villette, le plus gros lieu de consommation de crack à Paris. 300 à 400 toxicomanes se sont installés dans ce camp il y a un an.
8h04 sur RMC, ça y est Marguerite, on peut acheter nos billets de train pour les vacances de Noël.
9 millions de billets en vente dès ce matin, moment clé pour la SNCF, on attend un pic de réservation. Mais certains voyageurs à peine arrivés sur le site ont reculé, effrayés par les prix.
Je me suis levée entre 5h30 et 5h45. Je m'en serais bien passée, pour être honnête. J'ai pris des billets de train pour aller passer Noël en famille chez mes parents qui habitent Grenoble, de Toulouse. Là, effectivement, la surprise, c'est que les billets de train sont déjà à 6h du matin, à plus de 180 euros, en comptant juste moi, mon fils et ma fille qui a même pas 4 ans, donc qui ne paye pas. Finalement, c'est les mêmes prix qu'à l'année. J'avoue que je suis un peu frustrée et dépitée. Je suis pas retournée me coucher.
Donc, je voulais partir le 26 à Valence TGV de Lyon-Saint-Exupéry et j'ai vu les prix, c'était minimum 100 euros, du coup j'ai dû me rabattre sur un billet à 69 euros je crois. C'est super, il y a plein de billets, ils font de la promotion de plein de billets, mais au final les prix, c'est choquant quoi. On s'attendait peut-être à avoir des prix un peu sympas, mais en final on s'est un peu levé pour rien.
Et pour couronner le tout, l'application SNCF Connect est en train de bugger car il y a beaucoup trop de monde connecté. Courage et patience. Ces voyageurs qui vont peut-être se tourner vers la voiture du coup. Attention en tout cas ce matin si vous êtes au volant à Paris. Une station Total sur deux est à sec. Trois raffineries du groupe toujours en grève. Les salariés réclament une revalorisation des salaires. Même revendication dans les centrales nucléaires touchées par un mouvement de grève qui devrait commencer ce soir à 21h.
La Ligue des Champions, Marseille a remonté la pente hier face au Sporting Portugal. Belle victoire, 4-1. C'est au tour du PSG de briller, on l'espère, ce soir en Ligue des Champions.
Les Parisiens se déplacent sur la pelouse du Benfica Lisbonne. Troisième journée de Ligue des Champions. On retrouve en direct Fabrice Hawkins depuis Lisbonne. Fabrice, c'est l'un des premiers gros tests de la saison.
Ah oui, dans une ambiance bouillonnante du stade de la Luz, les Parisiens vont jouer l'adversaire le plus solide du groupe parce que oui, le Benfica est plus fort que la Juventus cette saison. Comme le PSG, les Portugais n'ont perdu aucun match. L'équipe est jeune mais terriblement efficace. Il y a du talent sur toutes les lignes et le danger vient de partout. Les Parisiens vont devoir se montrer performants dès les premières minutes du match, ne pas se faire surprendre comme en Israël il y a 2 semaines. Pour ça, les Parisiens pourront compter sur le retour de Marco Verratti au milieu, devant sans surprise. Les 3 étoiles devraient être alignées. Neymar, Messi et Mbappé. Après ce match, le Paris Saint-Germain doit en savoir un peu plus sur son niveau. L'objectif est clair, s'imposer sur une pelouse où Paris n'a jamais gagné.
Merci beaucoup Fabrice Hawkins en direct pour RMC. Depuis Lisbonne, coup d'envoi à 21h, rencontre à vivre en direct à la radio sur RMC et à la télévision sur RMC Sport 1. Je vous emmène maintenant au cinéma. RMC est allé voir le film Novembre, un sujet lourd, les attentats du 13 novembre. Un parti pris, adopter le point de vue des enquêteurs et suivre la traque des terroristes. Le tout avec un casting 5 étoiles, Jean Dujardin, Sandrine Kiberlin, Jérémy Régnier, Martin Cadoret nous raconte.
Aux dernières informations, il y aurait 2 terroristes en fuite dans Paris.
Novembre nous emmène au cœur de la sous-direction antiterroriste pour suivre la traque pendant 5 jours des auteurs des attaques du 13 novembre. Amalthée a passé sa séance en apnée.
Grosse claque quand même, assez intense. Le fait que ce soit quand même basé sur des faits très réels et que ce soit en plein cœur de l'enquête. De voir vraiment les raids et le travail vraiment de policiers sur le terrain.
Arrête-toi !
Et si on ne voit pas de reconstitution des attaques, le sujet reste sensible, concède Julien.
Il y avait un silence quand même rare dans la salle de cinéma.
Lui n'a pas aimé le film.
Il faut raconter ce qui s'est passé, donc on le raconte, mais il y a pas de, on s'attache à aucun personnage.
Au cœur du film, un commissaire joué par Jean Dujardin.
Je veux pas qu'on laisse place à nos émotions personnelles.
Il est juste parfait pour ce rôle-là.
Il joue très très bien.
Pour coller à la réalité, Cédric Jiménez, le réalisateur, a travaillé avec le vrai service antiterroriste qui a mené l'enquête.
Il n'y a qu'eux qui pouvaient véritablement nous renseigner sur la façon dont s'est déroulée cette enquête. On parle de événement qui est beaucoup, beaucoup trop lourd pour prendre des libertés trop importantes. Celles qu'on prend sont sur les personnages parce qu'il ne faut pas dévoiler leur identité. Mais quand même, on respecte, on est fidèle à l'articulation des faits.
Le réalisateur a d'ailleurs attendu la fin du procès du 13 novembre pour intégrer le verdict à la fin du film.
Je sais où sont les 2 terroristes.
Novembre, en salle aujourd'hui, que Martin Cadoret est allé voir pour RMC. C'était le journal de Marguerite Dumont. Merci Marguerite, on vous retrouve à 9h pour un prochain journal. On salue Apolline, mais oui, Apolline de Malherbe qui revient dès demain aux commandes d'Apolline Matin. Je la salue parce que je sais qu'elle nous regarde sur RMC Story. Je vous signale aussi que François Ruffin, le député insoumis, sera l'invité de Philippe Corbet, 8h30. Le face-à-face, ce sera en direct sur RMC et BFM TV. Il est 8h09.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et restez avec nous dans un instant. Le parti pris, ce sera celui de Laurent Tapie qui bataille avec l'OM et la ville de Marseille pour qu'un hommage soit rendu à son père. Il lance une souscription. Alors, auditeur marseillais, tiens, supporter de l'OM, est-ce que vous seriez prêt à participer? Venez témoigner au 32-16. Laurent Tapie est avec nous tout de suite en direct sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Charles Magnin.
8h12 sur RMC et RMC Story.
Le parti pris.
Le parti pris, c'est tous les jours après le journal de 8h sur RMC. Une actualité, un point de vue. Et ce matin, c'est le vôtre. Laurent Tapie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fils de Bernard Tapie, décédé le 3 octobre 2021. Vous avez lancé un appel hier. Vous souhaitez lancer une souscription auprès des supporters de l'OM pour édifier une statue de votre père. Car si j'ai bien compris, jusqu'à présent, ni la ville, ni le club n'ont vraiment prévu de lui rendre hommage.
C'est ça. Et c'est pas une souscription qui est uniquement dédiée aux supporters. En fait, ce serait tous ceux qui aimaient mon père. Pour qu'il en reste une trace physique, quelque chose. Et comme c'est vrai qu'une des choses dont il était le plus fier, c'est cette victoire en Ligue des Champions, ça nous semble logique que ce soit une statue dans laquelle il porte la Ligue des Champions et où il est porté par ses joueurs, qui est une scène qui a réellement existé, et qu'on aimerait mettre devant le stade Vélodrome, devant l'esplanade qui mène au stade Vélodrome, sur laquelle il n'y a rien. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, ni la ville ni le club n'ont fait quoi que ce soit.
Alors, vous avez lancé cet appel hier matin. Est-ce qu'entre-temps, vous avez eu des nouvelles de la mairie de Marseille? RMC Sport les a contactés hier. L'adjoint au sport nous dit, je cite, qu'une réflexion, des échanges sont déjà en cours, mais c'est juste que ça prend du temps. Vous confirmez qu'il y a déjà des discussions avec la mairie ces derniers mois?
Non. Non, non, je confirme pas. La mairie ne nous a strictement rien demandé. Quand moi, je leur en ai parlé il y a deux ou trois mois, ils m'ont dit oui, on y réfléchit. Il n'y a rien de concret. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'un an de réflexion pour savoir ce que vous allez faire. Donc, dans tous les stades, quand une personne importante décède, c'est dans les deux mois qui suivent. Oui. Quand Francis Borrelli est mort, il y a la tribune Francis Borrelli qui a été inaugurée au Parc des Princes très peu après. Enfin, c'est le cas partout. Quand Robert Louis-Dreyfus est mort, il avait fait 13 ans à la tête de l'OM sans gagner un seul titre. Ils ont nommé en moins de 6 mois le centre d'entraînement, le centre Robert Louis-Dreyfus. Donc un an après, il nous expliquait qu'en fait, on est encore en train de réfléchir. Ça, c'est un moyen de dire on ne fait pas rien.
Et du côté du club,
de toute façon, je j'attends pas qu'ils réfléchissent puisqu'on va le faire nous. Voilà.
Là, il y a la mairie, mais il y a le club aussi.
Du côté du club non plus. Oui, du côté du club non plus. Le club, je suis moins surpris parce que vous savez, le club, si on pouvait l'oublier, ça les arrangerait bien parce qu'en fait, c'est jamais facile quand on est le dirigeant d'un club de devoir être comparé à quelqu'un qui a tout gagné quand soi-même on n'a rien gagné. Donc je sais pas du club que j'attends, mais vraiment de la mairie pour le coup, oui. Et les supporters non plus ne comprennent pas. Quand j'étais devant la tombe de mon père, on avait les présidents de certains groupes de clubs et eux non plus ne comprenaient absolument pas qu'il n'y ait strictement rien de prévu pour mon père.
Et du coup, vous nous le dites, vous allez lancer les choses par vous-même. Vous parlez d'une souscription ouverte, oui, pas qu'aux supporters, à tous ceux qui aimaient votre père. Ça marcherait comment? Ça veut dire quoi? On vous donne des sous et le projet, c'est une statue, c'est ça, hein?
Ce ne sera pas à moi qu'on va les donner. La première des choses, c'est que je vais sélectionner la plateforme de ce qu'on appelle la Love Money. Donc, ce sont des plateformes internet qui permettent de souscrire comme ça à des projets qui ne sont pas capitalistiques. C'est pas des actions, c'est pas des prêts, et on donne de l'argent pour faire quelque chose. Donc, il y a des plateformes qui existent. Il y en a 3-4 qui dominent les autres. Je vais choisir laquelle on va retenir en fonction du nombre de personnes qu'elle a et de la commission qu'elle acceptera de prendre, la plus faible possible. Ça, c'est un premier point. En deuxième point, je suis déjà en train de contacter plusieurs sculpteurs pour faire un appel d'offres. En fait, moi j'ai une idée assez précise de ce que je voudrais comme statut. Ce que je disais tout à l'heure, je voudrais qu'il y ait 6 joueurs emblématiques de l'OM qui portent mon père, qui lui-même porte la Coupe d'Europe, puisque c'est une scène qui a existé. Donc on va s'en inspirer pour faire cette statue. Et puis quand on aura et le sculpteur et la plateforme, il n'y aura plus qu'à lancer. Voilà.
Eh ben, on va suivre ça de près, évidemment. Merci Laurent Tapie. Bah, tiens, une dernière question en tant que supporter de l'OM. Vous avez forcément le sourire ce matin, non? Vous avez apprécié cette belle victoire, la 4 buts 1 hier soir?
Ah oui, surtout que ça démarrait très mal puisqu'on était mené 1-0 à la première minute et qu'on en était à 16 défaites en 17 matchs. On s'est dit, bon allez, la série continue. Et bon, ils ont inversé la tendance. La seule victoire qu'on a eue dans les 17 d'avant, c'était aussi un match à huis clos. Donc on dirait que les matchs à huis clos nous portent bonheur, ce qui est étonnant compte tenu de la force de notre public.
Oui, on ne souhaite pas d'autres matchs à huis clos, mais d'autres victoires de l'OM. Merci Laurent Tapie d'avoir été en direct avec nous de bon matin sur RMC. Et surtout, on va suivre cette souscription que vous comptez lancer. On l'entend, cet appel qui sera bientôt lancé aux supporters, à tous ceux qui aimaient votre père Bernard Tapie et ce projet de statut que vous nous révélez ce matin sur RMC. Il est 8h16. Tiens, j'aimerais qu'on aille faire un tour sur la route parce que ce matin, vous êtes très nombreux à témoigner au 32-16. Alors, on ne parle pas de pénurie, mais on va dire de galère pour trouver du carburant un peu partout en France. Tout à l'heure, le patron de l'UFIP, Olivier Gantois, nous disait « Non, non, il y a du pétrole en France, vous inquiétez pas, juste quelques tensions dans les stations Total ». En réalité, ce matin, les automobilistes nous disent « Bah non, il y a plein de stations à sec ». Et ben, on va écouter Paul au 3216 qui est dans le Loiret. Bonjour Paul.
Oui, bonjour.
Alors vous, Paul, si je comprends bien, vous livrez le carburant justement.
Oui, je suis chauffeur livreur, donc je livre du carburant pour les entreprises et les particuliers, ce sont GNR, gasoil, donc je connais très bien le souci.
Et alors, où est le problème aujourd'hui? On a les pétroliers qui nous disent si on a du pétrole, pas de problème dans les raffineries, et au bout de la chaîne, on a des stations à sec. Alors où est-ce que ça coince?
Non, ce qui coince, c'est que, alors en tant que livreur déjà, nous, actuellement, on a beaucoup de, ce qu'on appelle là, on est contingenté, ce qui fait qu'il y a des restrictions, que ce soit pour les entreprises, on ne peut pas livrer les quantités demandées. Pour exemple, même les commissariats de police, il faut savoir que les quantités qu'ils nous demandent, on ne leur fournit pas la quantité exacte qu'ils ont besoin.
Pourquoi ? Pourquoi, Paul ? Pourquoi il y a des restrictions ?
Pourquoi ? La bonne question, il fallait poser au monsieur qui était passé, qui a dit qu'il n'y avait pas de soucis, parce que même au niveau des stations-service, que ce soit les Total, les S24 que nous, on utilise en tant que professionnels, nous sommes à sec. Donc, par exemple, beaucoup de routiers actuellement, même nous, dans notre cas, pourtant, on livre du carburant. Ça nous arrive de garder du gazole dans nos cuves, pour pouvoir faire notre plein le matin, parce que sinon, on ne trouve du carburant nulle part.
Oui, vous piochez dans votre propre cuve. Merci, Paul, d'être venu témoigner. C'est une info, ces restrictions, y compris pour les professionnels, y compris quand vous livrez les commissariats en carburant. Bon, c'est pas une pénurie, mais ça commence drôlement à y ressembler quand même. Merci, Paul, d'être venu témoigner en direct ce matin sur RMC au 32-16, 8h19. C'est l'heure d'Arnaud Demanche.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Arnaud Demanche, qui nous rejoint autour de la table pour électriser l'actualité, Arnaud.
Bonjour, bonjour Amélie Rosic.
Bonjour. Bonjour Arnaud.
Et oui, non mais les dames d'abord, je suis galant.
On peut vous laisser, hein.
Ça va les mecs?
Ouais.
On est bien. Alors Charles, on n'a pas trouvé de veste rose.
Ah non, j'ai pas eu le temps de
chercher. Je note pour la prochaine fois. La prochaine fois, on le fait.
Chiche. Promis.
Dites, c'est un peu le foutoir ce matin, cette radio Sébastien qui présente Charles Matin pendant que Charles présente Apolline Matin, qui elle n'est pas là parce qu'elle est en train de préparer Sébastien Midi, qui est une nouvelle émission. Il va falloir se réorganiser un tout petit peu ici. Hein.
Musicale des prénoms.
Alors, aujourd'hui, c'est Kippour. Bonjour à nos auditeurs de confession juive qui ne nous écoutent pas, malheureusement, puisqu'ils n'ont pas le droit, c'est pas de chance. Bon, voilà. Mais c'était gentil de le faire quand même.
C'est l'intention qui compte. En ce début octobre, certains de nos auditeurs vont recevoir le remboursement de la redevance. Le gouvernement a supprimé cette taxe qui permettait de financer l'audiovisuel public.
Oui, Manu Le Chip va être content. Hop, un impôt en moins, ça fait un truc en moins à expliquer dans une chronique. C'est toujours ça de pris. Et en tout cas, ça y est, nous, on va devenir la première radio de France, parce que c'est dans la gueule, France Inter, d'utiliser nos impôts pour nous battre. Non mais vous vous rendez compte, autour de cette table, on payait des impôts pour enrichir la concurrence quand même. Hein. C'est comme si Marseille payait des impôts pour financer le PSG. Enfin, remarquez, vous seriez content.
Oui,
j'ai vu votre air désolé quand vous avez dit au fils de Bernard Tapie, Laurent Tapie, mais l'OM a gagné hier et on sentait que...
Oh mais non.
C'est le PSG. PSG.
Mais oui.
Donc voilà, France Inter, voilà, c'est bien fait. Vous allez redevenir une radio de niche uniquement écoutée par les profs de latin et les fans d'Eddie de Préto. Alors évidemment, on s'inquiète du financement de l'audiovisuel public, d'autant qu'il y a besoin de personnel en ce moment, notamment à France Télé. Écoutez cet extrait du jeu Slam de Cyril Ferraud. Le candidat doit deviner un mot dont la définition est...
Animal qui vit parmi nous.
Étranger ?
Non, alors, non. Un étranger.
Non,
c'est un vrai extrait. Un étranger n'est pas un animal qui vit parmi nous. Si, alors, il s'est confondu en excuses, le pauvre monsieur. Il était liquide. Il a dit je suis confus, mais il y avait un G. Il n'est pas raciste, on le sait très bien. Sinon, on l'aurait vu chroniqueur sur CNews dès aujourd'hui. Or, pas du tout. Mais quand même, France 3 aurait pu engager des monteurs et des gens pour couper cette séquence et lui inviter cet embarras. À ce pauvre garçon. Il y a besoin de financement pour l'audiovisuel.
Oui, c'est vrai. Et donc, on sait qu'Arnaud Demange regarde Slam tranquillement l'après-midi à la télé. Éric Dupond-Moretti, renvoyé devant la Cour de justice de la République, soupçonné de s'être servi de ses fonctions de ministre de la Justice pour régler ses comptes avec des magistrats auxquels il s'est opposé quand il était encore avocat.
Oui, Alexis Kohler, Éric Dupond-Moretti. Eh ben, en ce moment, c'est les soldes d'automne. Pour un macroniste mis en examen, le deuxième est offert. C'est chin-chin d'un filou. De deux filous, en l'occurrence. Là, ça irait presque plus vite de faire la liste de ceux qui n'ont pas d'affaires dans la Macronie. Donc, je vais l'adresser avec vous. Est-ce que quelqu'un a un post-it à me dépanner? Alors, il y a Patricia Mirales, chargée des anciens combattants. Voilà, c'est fini. Macron nous avait promis une république exemplaire, donc effectivement, c'est l'exemple parfait de tout ce qu'il faut parfaire. Mais je comprends Éric Dupond-Moretti. Il adore plaider, les procès lui manquaient tellement, il s'en est créé un rien que pour lui, dit-on. Un ministre de la justice devant la justice, c'est quand même le seul endroit au monde où il n'est pas censé être, quoi. C'est comme un suppositoire dans un nez, ça n'a rien à foutre là. Et donc, Éric, il est soupçonné d'avoir réglé ses comptes avec des magistrats qu'il avait fait chier sur plusieurs affaires où il plaidait. Le gars confond justice et justicier. C'est Chuck Norris. En fait, tu lui dis
« Attention où vous mettez les pieds. »
Et lui, il te répond
« Je mets les pieds où je veux et c'est souvent dans la gueule. »
Ça ne déconne pas la méthode Dupond-Moretti.
Très bon résumé.
N'est-ce pas ?
Et vous l'avez donc comparé à un suppositoire, hein, on est d'accord.
Mais c'est vous qui interprétez.
Tiens, bah, tant qu'on est dans le virulent, l'Assemblée nationale a vécu une session très agitée hier après-midi. Daniel Obono a invectivé ses opposants. Sandrine Rousseau a mimé un utérus en signe de soutien à Adrien Quatennens. Le tout après le « Mangez vos morts » de Daniel Obono. C'était lundi dernier. C'était
oui, on est à peine début octobre et on en est déjà à « Mange tes morts » et à mimer des utérus en gueulant à l'Assemblée. Les prochaines étapes vont être folles. BFM va connaître une année agitée. Hein. Bienvenue sur BFM TV, première chaîne info de France. « Mange tes morts », a déclaré Daniel Obono. Agathe Lambray, vous êtes à l'Assemblée nationale. Comment est l'ambiance ?
Effectivement, Maxime. Daniel Obono a invectivé ses opposants et les a invités à manger leur mort. Mais la majorité lui a répondu d'aller baiser sa grand-mère. Sandrine Rousseau a alors mimé un utérus avec ses doigts. Et Éric Ciotti lui a répondu en s'empoignant les testicules. Selon un député socialiste, c'est une étape de plus dans la guerre que se livrent ces connards d'insoumis et les blaireaux de la majorité. Et chez LR, on attend désormais de savoir quel est le fils de pute qui va niquer la race de l'autre. À vous les studios.
Pauvre Agathe, obligée de commenter des grossièretés pareilles. On l'embrasse très fort.
On l'embrasse, évidemment. Merci beaucoup. Vraiment. Arnaud,
merci à vous.
Et puis tiens, bah lui aussi a l'habitude d'agiter un peu les séances à l'Assemblée. C'est François Ruffin qui est tout de suite l'invité de Philippe Corbet, le député insoumis qui répond, qui est dans le face-à-face. C'est tout de suite en direct sur RMC et BFM TV.
RMC, 6h39,
Apolline Matin.